Alors je voudrais dans cet exposé remettre cet argument en question, puisque si nous n'avons, il est vrai, pas de garantie que l'ensemble des phénomènes, pour le dire vite, que la philosophie s'efforce de traiter soit systématisable, eh bien nous n'avons pas non plus de raison décisive de penser qu'il ne l'est pas. Alors il serait bien présomptueux de ma part de prétendre ici trancher de manière décisive cette question. Ce que je me propose en revanche plus modestement de faire, c'est de vous présenter in medias res le type de raisons qui peuvent motiver un philosophe à entreprendre la tâche de construire un système philosophique avec, bien entendu, les critiques qu'on peut lui adresser. Donc une première partie de mon exposé sera consacrée à la présentation d'un exemple historique concret. Je voudrais en effet vous parler du philosophe américain Wilfrid Sellars, né en 1912 et mort en 1989, dont la longue carrière a été consacrée à l'élaboration d'un système philosophique tout à fait original. La conception par Wilfrid Sellars de ce que doit être la philosophie, comme nous le verrons, n'a bien entendu pas manqué d'être critiquée. Mais cette confrontation des opinions concernant la question de savoir si la philosophie peut et doit être systématique met en évidence qu'il y a derrière cette question en jeu beaucoup plus qu'une question d'artifice d'exposition. À travers l'exemple de la distinction qui est faite par Sellars entre l'image manifeste et l'image scientifique de l'homme dans le monde, et de la manière dont elle a été par la suite contestée, je vais m'efforcer de mettre clairement en évidence ce qui, selon moi, préside au choix du système, ou à son rejet, comme paradigme de recherche, pas seulement d'exposition, pour la philosophie. Alors, le premier temps de mon exposé sera consacré à la question de l'objet de la quête philosophique. Il est impossible, en effet, d'envisager la question de savoir ce que doit être la philosophie à part de la question de savoir d'abord pourquoi philosopher. Et à cet égard, on trouve chez Wilfrid Sellars des déclarations explicites. Je vous renvoie à la première citation du handout qui vous a été distribué. Je lis la citation. « Le but idéal de l'activité de philosopher est de devenir réflexivement chez soi dans la pleine complexité du système conceptuel multidimensionnel dans les termes duquel nous souffrons, pensons et agissons. Je dis réflexivement car il y a un sens dans lequel, par le simple fait de mener une vie non soumise à l'examen, mais conventionnellement satisfaisante, nous sommes chez nous, au sein de cette complexité. Ce n'est pas avant d'avoir mangé la pomme avec laquelle le serpent philosophe nous tente que nous commençons à trébucher sur le familier et à ressentir ce sentiment entêtant d'aliénation qui est chéri par chaque nouvelle génération comme son unique possession. Cette aliénation, ce fossé entre soi et son monde, ne peuvent être surmontés qu'en mangeant la pomme jusqu'au trognon. Car après la première bouchée, il n'y a pas de retour à l'innocence. Il y a de nombreux sédatifs, mais un seul remède. Il se peut que nous philosophions bien ou mal, mais nous devons philosopher. » Dans la perspective de Sellars, le but de la philosophie est donc pratique. Il s'agit de restaurer une manière d'être au monde marquée par la confiance sereine qu'assure une pleine intelligence du monde qui nous entoure. Comme le soulignait déjà Platon, l'interrogation philosophique, en nous arrachant au confort de nos certitudes, nous rend subitement étrangers au monde dans lequel nous vivions jusque-là dans une quiétude apparente, en révélant toutes les incohérences. Quel est réellement le goût de ce vin qui me paraît doux et sucré lorsque je suis en bonne santé, mais qui m'apparaît aigre et acide lorsque je suis malade? Et que dire du soleil qui, comme le décrit Descartes dans la Méditation 3, m'apparaît tout petit, alors même que les raisonnements de l'astronomie me convainquent qu'il est plusieurs fois plus grand que toute la Terre? Ce sont les termes de Descartes. Si la philosophie donc est ce qui nous a arraché à l'innocence d'un rapport immédiat et naïf au monde, en nous plongeant dans une espèce d'état cognitif post-lapsaire, elle est aussi ce qui peut, après une longue errance, nous permettre d'atteindre à une existence autre que conventionnellement satisfaisante, si bien qu'il n'est pas sûr que nous ayons en vérité des raisons de regretter notre paradis perdu. Puisque donc il faut philosopher, et autant que faire se peut bien philosopher, il faudra en établir clairement l'objectif. Et dans le premier paragraphe d'un texte célèbre de 1960, dont il sera beaucoup question dans cet exposé, intitulé « La philosophie et l'image scientifique de l'homme », Sellars affirme, c'est la seconde citation, « Le but de la philosophie, pour le dire en des termes abstraits, est de comprendre comment les choses, entendues au sens le plus large possible, s'articulent les unes aux autres au sens le plus large possible. Sous l'expression « choses entendues au sens le plus large possible », je fais tomber non seulement des éléments radicalement différents tels les choux et les rois, mais encore les nombres, les devoirs, les possibles, les claquements de doigts, l'expérience esthétique et la mort. Réussir en philosophie, ce serait, pour employer des tournures contemporaines, savoir se débrouiller ou s'y reconnaître dans toutes ces choses, non pas de manière irréfléchie, tel le mille-pattes qui savait se débrouiller jusqu'à ce qu'il se demande « comment est-ce que je fais pour marcher ?», mais de manière réfléchie, soit sans a priori. Il s'agit donc d'ordonner, de structurer, de classer le monde, bref, d'en proposer une vision systématisée dans laquelle nous sommes susceptibles de nous y retrouver. Il ne fait pas de doute que pour Sélars, la philosophie doit être résolument systématique. Et sa propre activité de philosophe se présente comme une tentative pour élaborer un tel système. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de ce système philosophique sélarsien. Ce que je vous propose aujourd'hui est de nous interroger plutôt sur ses conditions de possibilité. C'est dans ce cadre que j'aborderai la question des images manifestes et scientifiques de l'homme dans le monde, à savoir que le fossé entre soi et le monde que la philosophie est censée nous aider à surmonter se manifeste essentiellement par l'incompatibilité que nous constatons entre nos représentations ordinaires du monde et de nous-mêmes, le monde et l'homme tels qu'ils nous apparaissent, avec ce que l'exercice de la rationalité tel qu'il culmine dans la science nous dit qu'ils sont en réalité. Donc la question est alors de savoir si cette opposition est réelle et systématique, ou si ce n'est pas la philosophie elle-même et son esprit de système qui, aimant les catégories rigides et les oppositions bien tranchées, nous encourage à voir entre la science et le sens commun y réfléchi une incompatibilité radicale là où il n'y en a en vérité aucune. Faute de réflexion critique sur l'entreprise philosophique, affirme Wilfried Sellars, on est au mieux philosophe en puissance. Alors, il ne s'agit pas là de déterminer les limites de notre faculté de connaître, mais de distinguer clairement la tâche qui est spécifiquement dévolue à la philosophie, par contraste notamment avec les sciences. Sellars, en effet, ne feint pas d'ignorer que les ambitions totalisantes de la philosophie se sont vues contrariées au cours de l'histoire récente, en raison pour l'essentiel de l'essor des sciences spécialisées, qui semblent les avoir dépourvu la philosophie progressivement depuis 2500 ans de tous ces objets. La physique, la chimie, les mathématiques, et plus récemment encore la sociologie, la psychologie, et enfin les neurosciences, ont pris désormais leur autonomie. Il ne s'agit pas de revenir sur ce point. Pourtant, Sellars maintient que la philosophie doit continuer à s'intéresser aux objets de ces sciences, même si, bien entendu, il n'y a plus de sens aujourd'hui à exiger du philosophe qu'il s'y connaisse ou qu'il s'y retrouve aussi bien que le spécialiste dans son propre domaine d'études. La tâche du philosophe consiste essentiellement alors à replacer la discipline en question, son objet d'étude et ses méthodes au sein du raison qui constitue, selon Sellars, notre paysage intellectuel considéré comme un tout. Donc l'idée n'est sans doute pas nouvelle, on en trouve déjà des traces chez Auguste Comte, mais elle n'est pas pour autant dépourvue d'intérêt, parce que ce qui manque en général aux spécialistes, et ceci en raison même des exigences de sa discipline, et ce que peut légitimement prétendre apporter le philosophe contemporain, c'est un œil sur le tout, une vision synoptique qui s'efforcerait d'embrasser la diversité des objets, des méthodes utilisées, dans l'unité d'un seul regard. Donc l'idéal pour que nous nous sentions à nouveau chez nous dans le monde, et que nous nous y retrouvions, ça serait de parvenir à une représentation unique, exhaustive et cohérente, dans laquelle l'ensemble de nos savoirs positifs serait harmonieusement intégré. La difficulté est alors, comme on pouvait s'y attendre, que, je cite Sellars, à supposer qu'il y ait une image à saisir réflexivement comme un tout, l'unité que confère la vision réfléchie est à faire. Ce n'est pas une donnée initiale. Donc Sellars n'est pas naïf, c'est-à-dire que cette représentation unique et totalisante a pour lui le statut exact d'un idéal régulateur au sens kantien, à savoir celui d'un horizon heuristique, mais qui n'en mérite pas moins d'être poursuivi. Donc si l'on admet ce point, reste à savoir comment précisément reconstituer ce tableau harmonieux de notre paysage intellectuel. Par l'élaboration d'un système adéquat, bien entendu. Mais il s'agit d'élaborer un modèle général et systématique de l'ensemble de nos représentations, qui le décrive et qui l'explique. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas confier cette tâche aux scientifiques ? Certes, Sellars reconnaît sans embâge qu'il y a des spécialistes, des scientifiques, qui sont attentifs au fait de réfléchir sur leur objet d'étude et sur la manière dont leur domaine de recherche s'articule à d'autres domaines plus ou moins voisins. Nous le voyons bien aujourd'hui avec la manière dont, par exemple, la recherche biologique s'élabore en étroite collaboration avec l'ingénierie, la physique, et peut-être, du moins, nous pouvons l'espérer, le droit et l'éthique. Cependant, si l'on peut dire de tels spécialistes qu'ils ont l'esprit philosophique, ils ne sont pas encore philosophes. Car pour cela, selon Wilfried Sellars, il faut aussi avoir réfléchi à la nature de la pensée philosophique. Je vous renvoie à la troisième citation. C'est cette réflexion sur la place de la philosophie elle-même dans l'ordre des choses, affirme Wilfried Sellars, qui constitue le trait distinctif du philosophe par opposition au spécialiste qui réfléchit. Faute de réflexion critique sur l'entreprise philosophique, on est au mieux philosophe en puissance. Or, quels sont les résultats de cette réflexion critique, du moins telle que la mène Wilfried Sellars ? Le premier point est que, en un sens wittgensteinien, la philosophie ne constitue pas à proprement parler un corps de connaissances spécifiques qui viendrait s'ajouter, corriger ou suppléer à celui dont nous disposons déjà. Je cite Wilfried Sellars, « La philosophie comme telle n'ajoute rien de positif à ce que nous savons déjà. Elle ne cherche en quelque sorte qu'à améliorer la manière dont nous le connaissons. » Cette amélioration prend, comme nous venons de le voir, la forme d'une vaste synthèse. Tout d'abord, il y a la diversité des objets, des disciplines et des méthodes qui sont mises en œuvre et que l'on doit s'efforcer de réduire ou du moins de rendre cohérentes. C'est dans une telle perspective que l'on s'efforce par exemple d'unifier les sciences par l'élaboration de lois ponts ou de réduction d'un champ de connaissances à un autre. Mais conjugué à cette hétérogénéité de premier niveau, qu'on pourrait dire horizontal, c'est-à-dire la diversité des objets et des disciplines, et redoublant cette première hétérogénéité, Sellars affirme qu'il existe une seconde hétérogénéité, bien plus radicale encore, d'ordre supérieur et pourrait-on dire vertical. Je vous renvoie à la quatrième citation. Le philosophe, écrit Wilfried Sellars, a devant lui non pas une image multidimensionnelle et complexe, dont il lui faut apprendre à apprécier l'unité, mais bien deux images, essentiellement du même ordre de complexité, se présentant chacune comme une image complète de l'homme dans le monde et qu'il lui faut fondre en une seule vue après les avoir examinées séparément. Permettez que j'appelle respectivement ces deux perspectives, l'image manifeste et l'image scientifique de l'homme dans le monde. En effet, l'ensemble des résultats des sciences théoriques constitue une mosaïque qui suggère une certaine représentation de la réalité conforme, en gros, au principe du naturalisme. Cette représentation entre en contraste avec la manière dont nous nous représentons le monde, d'ordinaire, avec ses qualités sensibles, et d'autre part, nous-mêmes, avec notre pensée conceptuelle et nos actions délibérées. Si bien que ces deux descriptions ne semblent pas pouvoir être vraies du même monde. La stratégie rationaliste classique a consisté à établir alors une distinction entre le monde tel qu'il est, et pour les partisans du réalisme scientifique, comme Descartes par exemple, tel que le décrit la science, et d'autre part, le monde tel qu'il nous apparaît. Mais il faut expliquer alors pourquoi ce monde nous apparaît ainsi, attendu que pour Sellars, et j'insiste sur ce point, il n'est pas question de renoncer à l'image manifeste du monde. C'est-à-dire que la déchéance ontologique qui affecte d'ordinaire l'image manifeste, conçue comme royaume des apparences, ne justifie en aucun cas qu'on la néglige, faute de pouvoir la dissiper. Je songe ici au fameux problème des deux tables d'Eddington, qui a été remarquablement traité par Jacques Bouvresse dans un ouvrage consacré à la perception, intitulé « Science, perception et réalité ». Je cite donc le physicien Eddington qui s'étonne du fait qu'il lui semble que dans le monde, tout soit double. Et il prend l'exemple de sa table en disant que certes, s'il se demande qu'est-ce qui existe réellement, il y a la table telle qu'il la perçoit, qui est solide, qui est pourvue de couleurs, etc. Et la table scientifique, la table numéro 2, dont la science nous explique qu'au lieu, bien loin d'être solide ou d'être pleine, elle est en vérité constituée de minuscules particules de matière en mouvement et fondamentalement, elle est essentiellement constituée de vide. Je cite Eddington, « Je n'ai pas besoin de vous dire que la physique moderne, par des procédures de testage délicates et une logique impitoyable, m'a assuré que ma deuxième table scientifique était la seule qui soit réellement là, ou que puisse être là. D'un autre côté, je n'ai pas besoin de vous dire que la physique moderne ne réussira jamais à exorciser cette première table, un composé étrange de nature extérieure, d'imagerie mentale et de préjugés hérités. » Ce que souligne cette citation, c'est le fait que quand bien même nous sommes convaincus par ce que la science nous dit du monde, nous ne parvenons pas à chasser le fantôme des apparences. Sellars prend cette remarque très au sérieux et souligne le fait que l'image manifeste est tout à fait essentielle pour nous. Elle fait partie intégrante de notre expérience de nous-mêmes et de notre expérience du monde. Il souligne aussi à cet égard que l'image manifeste est celle par laquelle nous nous sommes pour une part essentielle et si on veut, si on s'autorise à employer une tournure existentialiste, l'image manifeste est ce par quoi nous nous sommes faits hommes et avons élaboré des cadres, notamment normatifs ou encore esthétiques, juridiques, en conséquence. Donc il n'est pas anodin que nous concevions le monde avec des qualités sensibles, et il est encore moins anodin que nous nous concevions comme des êtres pensants et doués de libre arbitre, par conséquent, dans un rapport de rupture relative avec le reste du monde physique et animal. C'est pourquoi Szélars corrige l'affirmation selon laquelle le but de la philosophie serait de parvenir à une vision synthétique ou synoptique du monde et de l'inscription de l'homme dans ce monde, en affirmant qu'elle doit d'abord en réaliser ce qu'il appelle une vue stéréoscopique, je cite Szélars, deux perspectives différentes sur un paysage se fondant pour former une seule expérience cohérente. Alors, ce que suggère ce terme de stéréoscopie, c'est une référence en optique à l'opération qui permet, à partir de deux images planes, de réaliser une seule image en relief. Vous trouvez dans le commerce des livres où vous avez deux photos et en louchant, vous devez arriver à faire surgir une troisième image en relief. Alors, pour ma part, je vous avoue que je n'arrive jamais à rien faire surgir sinon de sévères migraines. Mais c'est l'idée que Szélars a en tête. Ce que cette métaphore de la stéréoscopie laisse clairement entendre, c'est que seule la synthèse des deux images, et non l'élimination de l'une par l'autre, peut nous offrir une représentation adéquate du monde dans tout son relief et dans toute sa profondeur. Donc il y a deux tâches que la philosophie doit réaliser pour atteindre son but, et dont l'une est préliminaire à l'autre. Premièrement, réaliser la fusion stéréoscopique des images manifestes et scientifiques de l'homme dans le monde, afin, dans un second temps, d'en proposer une vision enfin unifiée et idéalement complète, synoptique. Et c'est à cette vue stéréoscopique, à la fusion des deux images manifestes et scientifiques de l'homme dans le monde, que je voudrais maintenant m'intéresser pour essayer d'établir en quoi elle relève en propre d'une philosophie systématique. Alors, la distinction entre l'image scientifique et l'image manifeste de l'homme dans le monde et l'idée qu'il y aurait un choc entre ces images constitue l'un des grands apports théoriques que Szélars aura légué au débat contemporain en philosophie de la connaissance. Cependant, cette distinction et cette idée d'un choc entre les images ont souvent été dévoyées au regard de leur sens et de leur portée initiaux, qui sont en vérité ceux d'une thèse sur la philosophie et son histoire. Le contresens qui a été généralement commis à cet égard a consisté à prendre pour équivalente les expressions d'image manifeste et celles d'image spontanée ou du sens commun. Il faut reconnaître que Szélars, dans ses textes, utilise parfois le terme d'image du sens commun. Mais néanmoins, lorsqu'il le fait, il prête à ce terme de sens commun une signification déterminée et beaucoup plus étroite que celle que nous lui portons d'ordinaire. Ce que je voudrais montrer ici est qu'en distinguant l'image manifeste et l'image scientifique de l'homme dans le monde, Szélars a en tête beaucoup plus que l'opposition triviale entre une représentation naïve, irréfléchie, fondée sur l'opinion du monde et de la place de l'être humain dans ce monde, et d'autre part, la représentation réfléchie et critique qu'en proposerait la science. Dans cette distinction, c'est une certaine lecture de la genèse de nos représentations intellectuelles qui est en jeu, avec les problèmes qui se posent lorsque l'on veut organiser ces représentations en un tout cohérent. Et c'est avec le problème de leur incompatibilité que les philosophes sont aujourd'hui désormais aux prises. En effet, l'image manifeste et l'image scientifique du monde constituent, selon Szélars, chacune un pôle vers lequel la pensée philosophique a tendu au cours de son histoire. Ainsi, pour lui, les grands systèmes de la philosophie antique et médiévale, jusqu'à la philosophie britannique et américaine de l'usage ordinaire de la première moitié du XXe siècle, toute une tradition que Wilfried Szélars appelle la philosophie pérenne, ont en commun de s'être efforcés de saisir et de décrire l'image manifeste. Szélars ne cite pas d'auteur en particulier, mais je crois qu'on pourrait songer ici à Platon, Descartes, Aristote, Kant, et pour la version contemporaine, à des philosophes comme le second Wittgenstein et Austin. En revanche, les philosophies directement inspirées par l'image scientifique sont, à quelques exceptions près, alors ces exceptions, on peut songer aux atomistes grecs ou aux philosophes épicuriens, les grands courants naturalistes qui ont émergé au XXe siècle et dans lesquels Szélars s'inscrit dans une large mesure. Alors Szélars, avec cette distinction entre l'image scientifique et l'image manifeste du monde, se défend de proposer un simple artifice méthodologique de classement. Ainsi, il remarque, je vous renvoie à la cinquième citation, « J'ai décrit le concept d'image manifeste comme l'un des pôles auxquels tend la pensée philosophique. Cela m'engage bien sûr à soutenir que l'image manifeste n'est pas une pure norme extérieure dont se sert qui s'intéresse au développement de la philosophie, pour classer des positions philosophiques, mais qu'elle possède un mode d'existence objectif dans la réflexion philosophique, pour ne pas dire dans la pensée humaine en général. Et il me faut dire aussi qu'elle ne peut influencer la réflexion philosophique que si son mode d'existence est tel qu'il transcende en quelque sorte la pensée de tout un chacun. Il faut donc prendre les deux images du monde en un sens réaliste, quoique faible. Non qu'il existerait quelque part dans le monde des idées une image manifeste et une image scientifique. Il ne s'agit jamais que de représentations, de façons d'expérimenter le monde strictement humaine. Néanmoins, elles sont douées, de la robustesse ontologique que confère à toute représentation intellectuelle un caractère public et non arbitraire. C'est l'art, cela reconnaît le même statut que celui des abstractions et des idéalisations qui sont usuellement utilisées en science, comme par exemple les idéotypes de Max Weber, ou encore les corps sans friction ou les gaz parfaits dont parle la physique. Voici donc l'objet d'élection de la philosophie. Non pas des objets ou des groupes d'objets en tant que tels, mais d'abord les cadres conceptuels, au moyen desquels nous nous rapportons à nous-mêmes, au monde et à la pluralité des objets qui le constituent et qui sont le produit historique de pratiques à la fois conceptuelles et sociales. Je vous renvoie à la sixième citation, ce qui complique un peu le portrait, si tant est qu'il n'était pas encore déjà suffisamment compliqué, ce qui complique un peu le portrait, c'est que chaque image a son histoire. Or, si les grandes lignes de ce que j'appelle l'image manifeste se sont formées dans la nuit des temps, l'image scientifique à quelques signes annonciateurs près a pris forme sous nos yeux. Donc le philosophe contemporain se trouve aux prises avec une situation inédite. Le développement des sciences de la nature conduit à un bouleversement des catégories au travers desquelles nous avions jusque-là l'habitude de penser le monde, étant même à renverser ces catégories. À charge pour le philosophe d'évaluer laquelle des deux images désormais concurrentes est la plus adéquate ou la plus pertinente pour penser le monde et notre inscription dans ce monde. La thèse de Szélars sur ce point est, nous l'avons vu, qu'il n'y a pas en vérité à choisir entre l'image scientifique et l'image manifeste, il faut les maintenir toutes les deux. Alors, pour l'heure, revenons-en à nos deux images. En quoi consistent-elles et surtout, en quoi s'opposent-elles? Outre le fait, comme nous venons de le relever, que l'image manifeste est le produit d'une histoire qui remonte au moins à l'apparition de la pensée consciente, tandis que l'image scientifique s'est-elle constituée essentiellement depuis la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles, eh bien, ces deux images diffèrent radicalement à deux égards. D'une part, le type de catégorie ontologique sur lesquelles elle repose, et de manière étroitement liée, le type de méthode auquel elle recourt pour la description et l'explication des phénomènes du monde. Autrement dit, l'image manifeste et l'image scientifique divergent quant aux questions de savoir ce qui fondamentalement existe et de quelle manière nous pouvons déterminer exactement ce qui existe. Alors commençons par l'image manifeste. Loin de ce que son nom pourrait laisser penser, cette image manifeste n'a aujourd'hui telle que nous la connaissons, rien d'une représentation pré-scientifique, naïve et irréfléchie. Elle est en vérité tout aussi complexe, tout aussi sophistiquée et rationnellement élaborée en son ordre que peut l'être l'image scientifique de son côté. Si elle entretient bien un lien privilégié avec ce que nous appelons le sens commun, et Szélars, comme je vous le disais, utilise d'ailleurs parfois lui-même cette expression, ce qui peut entraîner certaines confusions, donc si cette image entretient bien un lien avec le sens commun, c'est au sens restreint où elle reconnaît d'abord la réalité des phénomènes publics, observables dans le temps et dans l'espace et entretenant entre eux des liens causaux. Autrement dit, il n'y a pas ou il n'y a plus de place dans l'image manifeste du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui, de place pour les créatures fantaisistes de la superstition ou de la mythologie, par exemple. Il y a donc, en un certain sens, une scientificité à l'œuvre au sein même de l'image manifeste, dans la mesure où ce qu'elle vise, en tant que cadre conceptuel, c'est à proposer une représentation du monde la plus adéquate et la plus vraisemblable possible. Par conséquent, au cours de son développement, donc depuis, selon Szélars, l'apparition de la pensée consciente, l'image manifeste se corrige, se raffine progressivement, en vue de proposer les descriptions et les explications les plus satisfaisantes. Cependant, insiste Szélars, la démarche scientifique qui est à l'œuvre dans le cadre de l'image manifeste procède essentiellement par ce qu'il appelle des inductions corrélatives et par des généralisations à partir des données de l'expérience sur le modèle de la science décrit par John Stuart Mill, par exemple. Donc ce qui distingue alors radicalement l'image manifeste de l'image scientifique, c'est le fait qu'on n'y recourt pas à la postulation d'entités physiques inobservables pour l'explication des phénomènes observables. C'est pourquoi Szélars affirme que l'on pourrait parler, plutôt que d'image scientifique et d'image manifeste, eh bien d'image postulationnelle pour l'image scientifique et d'image corrélationnelle pour l'image manifeste. Cependant, une fois encore, il faut faire attention au sens étroit que donne Szélars à ces termes. Il ne s'agit pas de nier que l'image manifeste pourrait faire appel, pour les besoins de la description et de l'explication, à la postulation d'entités inobservables. Ainsi, par exemple, la psychologie behavioriste, la psychologie du sens commun, qui pose l'existence d'événements internes et invisibles comme les croyances, les désirs, plus généralement les pensées, sur le modèle d'une forme de discours intérieur, eh bien, cette psychologie behavioriste, selon Szélars, ressort en plein de l'image manifeste. Ceci parce que les éléments qui sont postulés, à savoir les pensées, ne sont pas nécessairement des sens matériels ou physiques, ou descriptibles en termes naturalistes. Au contraire, les pensées sont des entités inobservables qui sont douées de propriétés non naturelles, comme par exemple l'intentionnalité. Cet exemple met clairement en évidence l'opposition, cette fois catégoriale, entre les images manifestes et scientifiques. Héritière historiquement d'une représentation primitive où l'homme appréhendait le monde de manière anthropomorphisée ou animiste, en dotant tous les objets de propriétés comme des pensées, des intentions, des volontés, etc., eh bien, l'image manifeste, bien qu'elle se soit remarquablement raffinée depuis, conserve une ontologie fondamentale dans laquelle la catégorie de personne, comme être percevant, pensant et agissant, occupe la première place. Ceci explique, selon Szélars, le fait qu'un certain nombre des philosophies inspirées par l'image manifeste, ces philosophies qui ressortent de ce que Szélars appelle la philosophie pérenne, eh bien qu'un certain nombre des philosophies inspirées par l'image manifeste à partir de la révolution galiléo-cartésienne aient été dualistes. C'est le cas chez Descartes, Leibniz, Malebranche, Kant dans une certaine mesure. Le raffinement catégorial de l'image manifeste a consisté en une progressive dépersonnalisation des objets, c'est-à-dire qu'on a commencé par leur accoler une forme tronquée de la catégorie de personne, en leur retirant par exemple la capacité de délibérer ou la volonté. Et ceci avant d'aboutir finalement à une nouvelle catégorie d'êtres proprement dite, à savoir les objets physiques matériels, avec les lois mécanistes qui les régissent et qui coexistent avec les personnes proprement dites, voire dans ces personnes, comme dans le cas problématique de l'homme conçu comme un composé d'âme et de corps. Alors ce point nous permet d'entrevoir la manière dont l'image scientifique a émergé à partir de l'image manifeste. En effet, pour des questions historiques et conceptuelles, l'image manifeste est première. Cependant, la puissance explicative du mécanisme et de la méthode postulationnelle, au sens de Szélars, c'est-à-dire postulation d'entités physiques inobservables, qui a été mise en évidence à l'occasion de la révolution galiléo-cartésienne. Donc cette puissance explicative du mécanisme, conjuguée aux difficultés que pose une ontologie dualiste, a conduit à renverser l'ontologie de l'image manifeste et à adopter pour catégorie fondamentale celle d'objets physiques, dont les personnes, dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire les contenus perceptuels, la pensée et les volontés, seraient censées alors être parfaitement réductibles à des systèmes physiques extrêmement complexes. On trouve ce genre de réaction déjà chez des philosophes comme Hobbes ou Lemaître, c'est-à-dire des philosophes qui revendiquent un matérialisme éliminativiste. Alors, ce n'est évidemment pas du point de vue de la description et de l'explication des phénomènes matériels que s'affrontent les images manifestes et scientifiques, mais bien du point de vue de la description et de l'explication de ce qu'est l'homme dans le monde. Il y a bien un champ, celui de l'explication des phénomènes naturels, autrement dit, dans lequel l'image scientifique qui a émergé a légitimement concurrencé et même déjà en partie définitivement supplanté l'image manifeste. En effet, l'image manifeste établissait avec succès des corrélations et des généralisations inductives, mais sans parvenir réellement à en rendre compte. Un exemple bien connu qui nous permet de l'illustrer, c'est celui du passage de la théorie cinétique à la théorie moléculaire des gaz. Dans un premier temps, eh bien, on a empiriquement constaté que les données observationnelles suggéraient un rapport constant entre la pression, le volume et la température des gaz. Plus précisément, les données empiriques confirmaient l'hypothèse selon laquelle la pression exercée par les gaz variait de manière inversement proportionnelle avec le volume du contenant à température constante, c'est-à-dire que plus on a de volume et moins on a de pression, et vice-versa. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la loi des gaz parfaits de Boyle-Charles parvenait à exprimer ces rapports entre pression, volume et température sous la forme le produit pression fois volume était égal à la température multipliée par un facteur K, où K était une constante. Et cette loi est un exemple de généralisation observationnelle, une loi empiriquement hautement confirmée. Et elle ressort du type de description et d'explication scientifique que Szélars considère comme relevant en propre de l'image manifeste. Elle met en évidence des propriétés conditionnelles reliant deux phénomènes observables. Si la pression et le volume du gaz sont de X, alors la température du gaz sera de Y. Donc on avait bien ici affaire à une description adéquate, parce que hautement confirmée, d'une corrélation entre des éléments observables. Au XIXe siècle, fut cependant développée la théorie cinétique des gaz, ceci afin de mieux expliquer le comportement des gaz au moyen de la postulation de différentes entités et principes de nature strictement physique. Et le modèle théorique consistait à considérer que les gaz parfaits consistaient en minuscules et inobservables petites molécules sphériques, parfaitement élastiques et se déplaçant très rapidement selon les lois de la mécanique newtonienne. Donc on postula que la température d'un gaz était proportionnelle à l'énergie cinétique des molécules censées le composer. Et à partir de ces postulats, il semblait qu'on pouvait en un certain sens dériver la loi empirique de Boyle-Charles des gaz parfaits à partir des principes théoriques de la physique newtonienne tels qu'on l'appliquait en particulier à ces fameuses petites molécules inobservables en mouvement. Donc en bref, en postulant un domaine de micro-entités inobservables physiques, on rendait pleinement compte de la régularité empirique ou de la régularité portant sur les phénomènes observables en termes de principes théoriques fondamentaux qui s'appliquaient aussi à un vaste ensemble d'autres phénomènes. Donc comme on le voit au travers de cet exemple, l'image scientifique qui se présente d'abord comme une entreprise de complémentarité se révèle ensuite être une entreprise de révision complète de l'image manifeste. Et l'émergence de l'image scientifique correspond à celle d'un nouveau paradigme descriptif et explicatif des phénomènes observables, et elle est solidaire d'un changement radical de conception, comme je l'ai souligné, sur ce qui réellement existe. Donc concrètement, la rupture qu'inaugure la science du XVIIe siècle sur le plan ontologique et catégorial se traduit par l'abandon des qualités secondes, les sons, les couleurs, les goûts, etc., au registre de ce qu'il y a réellement dans le monde, au profit des seules qualités premières, la forme, l'étendue, le mouvement, etc. Et d'autre part, l'apparition de la pensée conceptuelle est conçue dans un rapport de continuité avec l'activité préconceptuelle des précurseurs animaux des humains, puisque même l'activité conceptuelle s'explique par des catégories, ou du moins des éléments physiques, il n'y a pas de différence de catégorie ontologique entre quelque chose qui ne pense pas, ou un animal qu'on peut douer de pensée préconceptuelle, et un être humain. Donc la liberté de la volonté et la délibération ainsi que la pensée sont renvoyées au chapitre des épiphénomènes dans l'explication du comportement humain. Alors pour autant, il n'est pas sûr que l'image scientifique parvienne à expurger si aisément le cadre conceptuel dans lequel nous appréhendons le monde de ces éléments manifestes, surtout lorsqu'il s'agit de rendre compte de la variété et de l'expérience proprement humaine du monde. Et c'est en cela que consiste le choc des images. Il est encore moins sûr que cette ambition de l'image scientifique soit légitime au regard de l'objectif d'atteindre une image du monde la plus complète et la plus fidèle possible. L'ambition philosophique de Szélars est de parvenir à surmonter ce choc apparent des images manifestes et scientifiques de l'homme dans le monde dans le cadre d'un réalisme scientifique, puisque Szélars affirme dans « Empirisme et philosophie de l'esprit », je cite, « Dans la dimension de la description et de l'explication, la science et la mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. » Mais, essaye de mettre en évidence Szélars, on peut être un réaliste scientifique sans pour autant tomber dans l'écueil du matérialisme éliminativiste. Je vous renvoie à la septième citation. « Que l'on songe à Spinoza, par exemple, qui opposait l'homme tel qu'il se conçoit à travers une image fausse à l'homme tel qu'il se découvre dans l'entreprise scientifique. On pourrait fort bien affirmer que Spinoza a opéré une distinction entre image manifeste et image scientifique de l'homme, rejetant la première comme fausse et acceptant la seconde comme vraie. Mais si Spinoza interprète l'image scientifique de telle manière qu'elle domine la vision stéréoscopique, l'image manifeste apparaissant comme un réseau d'erreurs explicables, le fait même que je recours à l'analogie de la vision stéréoscopique suggère qu'à mes yeux, l'image manifeste ne se perd pas au cours de la synthèse. Autrement dit, même si l'image manifeste doit être in fine rejetée comme inadéquate à nous apprendre ce qui est, elle peut être conservée au titre de description du monde et de l'homme tel qu'il nous apparaissent. Je vous renvoie à la 8e citation. « Ce rejet, écrit Sellars, n'implique pas naturellement un rejet pratique. Il n'implique pas, autrement dit, la suggestion d'un lavage de cerveau des populations existantes et d'un dressage visant à les faire parler différemment. Et bien entendu, tant que le cadre existant sera en vigueur, il sera incorrect de dire, à moins de vouloir établir un point philosophique à propos du cadre lui-même, qu'aucun objet n'est réellement coloré ou n'est situé dans l'espace ou ne dure dans le temps. » Donc le fait que nous conservions le cadre conceptuel de l'image manifeste ne pose pas problème tant que l'on garde présent à l'esprit qu'il décrit non les choses, mais leurs apparences, pour nous. Et c'est pourquoi, dans le cadre des apparences, il serait incorrect de dire que les objets ne sont pas réellement colorés. Et d'autre part, que l'on puisse expliquer de manière claire et systématique le rapport que ces apparences entretiennent avec les choses en soi, ou les objets en soi, que sont les objets scientifiques. Et pour ce faire, Sellars proposera une ontologie des processus contre l'ontologie particulariste de la science, qui devrait lui permettre de rendre compte des aspects qualitatifs des perceptions, de l'efficace causale des individus et des processus mentaux dans le monde physique. Donc, comme je l'ai déjà dit, la distinction qui est établie par Sellars entre l'image scientifique et l'image manifeste du monde et de l'homme dans le monde a connu une postérité certaine. Elle n'a pas non plus manqué d'être critiquée. Et parmi ceux qui l'ont remise en cause, le plus radical est certainement Bas van Frassen, dans un article consacré à Sellars et intitulé « The Manifest and the Scientific Image », donc l'image manifeste et scientifique. Cette critique est d'un intérêt particulier pour notre propos dans la mesure où elle porte moins sur le détail de la pensée de Sellars que sur son aspect systématique. En effet, la description et la définition même de nos deux images ou des conceptions de l'homme dans le monde qui sont censées déterminer et structurer nos représentations globales sont déjà l'œuvre de la systématicité philosophique au travail. Ce sont des produits de l'intellect qui s'efforcent d'imposer à l'expérience une structure intelligible pour nous et, avant de les résoudre, eh bien, expliquer les raisons d'être des problèmes que nous rencontrons. Notamment, les termes d'image du monde, de cadre conceptuel ou même de monde dans des expressions telles que le monde de la science, le monde du physicien ou le monde de Ptolémée, ces expressions nous viennent aisément et même trop aisément pour être tout à fait honnête selon Van Frassen. Je vous renvoie à la 9e citation. Mais cette aisance elle-même devrait nous rendre suspicieux. Si cette manière de parler, donc en termes d'image du monde, nous vient si aisément, n'est-ce pas trop facile et trop beau pour être vrai? Quelles horreurs issues des profondeurs intellectuelles sommes-nous en train de laisser entrer, tandis que nous en parlons si légèrement? Quelles illusions nous assailliront-elles? Dans quels embarras nous mettons-nous? Donc le fond de l'argumentation de Van Frassen consiste à nier que les descriptions que donne Sellars, des images manifestes et scientifiques de l'homme dans le monde, correspondent véritablement à quoi que ce soit. Il reproche tout d'abord à Sellars d'avoir défini l'image manifeste comme une image corrélationnelle, à qui toute postulation d'entité inobservable serait étrangère. Or, il est évident que dans la philosophie pérenne, dont Sellars dit qu'elle épouse l'image manifeste, eh bien, on procède à de multiples réifications, à des postulations de toutes sortes. Si bien qu'en vérité, il n'y a rien qui ait jamais correspondu à l'image corrélationnelle de Sellars. Alors, comme j'espère l'avoir établi clairement, je pense que ce reproche est mal fondé et qu'il repose sur une mauvaise interprétation, assez peu charitable en vérité, de ce que voulait dire Sellars. Ce que l'image manifeste répudie, entre guillemets, ça n'est pas la postulation d'entité inobservable, c'est la postulation d'entité inobservable de nature strictement physique. En revanche, il me semble que Van Frassen touche plus juste lorsqu'il reproche à l'image scientifique telle que l'a décrit Sellars de n'être qu'un être de raison, le résultat d'une mauvaise compréhension de ce que fut réellement la révolution scientifique galiléo-cartésienne. si, affirme Van Frassen, la science moderne en est venue à restreindre ses descriptions à un tout petit nombre de qualités, les qualités premières, ce n'était pas dans le but d'établir une distinction entre les propriétés censées appartenir réellement aux objets et les autres propriétés, qualités secondes, qui seraient dans le sujet. Donc il ne s'agissait pas d'établir une distinction entre apparence et réalité, qualité subjective et qualité objective, pour des raisons de principe ontologique, mais seulement dans le but pratique d'en finir avec la multiplication sans frein des propriétés scolastiques. Et c'est le philosophe qui, dévoyant le sens de ce geste théorique, lui a attribué une portée ontologique en engendrant par là une multiplicité de difficultés inextricables qu'il échoue bien évidemment à surmonter. De plus, remarque Van Frassen, la liste même des qualités premières a évolué depuis Galilée et Descartes. Par exemple, on a aujourd'hui remplacé les quantités spatiales et temporelles par des quantités spatio-temporelles. Donc il n'y a pas lieu de considérer le fait que des termes soient exclus du vocabulaire scientifique comme autre chose qu'une simple question de commodité pratique. Et l'explication scientifique élimine tout simplement les facteurs qui ne contribuent pas à satisfaire ces critères de succès par principe d'économie et non pas en vertu d'un engagement philosophique et ontologique sous-jacent. Et c'est pourquoi il n'y a pas, selon Van Frassen, de réelles incompatibilités entre l'image scientifique et l'image manifeste. Ce ne pourrait être le cas que si l'on avait affaire à deux termes stables, à des conceptions immuables. Et la philosophie systématique, avec l'usage qu'elle fait du langage et des concepts, nous incite à croire qu'il y en a. Or, il n'y a rien de tel, selon Van Frassen. Le sens commun, comme la science, propose des représentations beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles et perméables l'une à l'autre que ne veut bien le reconnaître Sellars. Michael Demet, dont vous avez entendu abondamment parler, dans un article intitulé « Common Sense and Physics », examine lui aussi l'idée que la physique ferait subir des affronts au sens commun en nous conduisant par exemple à penser que les objets physiques ordinaires n'auraient en réalité pas de couleur. Comme Van Frassen, il nie qu'il y ait un véritable antagonisme entre la science et le sens commun, tout simplement parce qu'il n'existe rien d'immuable, d'unique, d'unifié et de permanent comme une théorie du monde qui constituerait le fondement de la pensée ordinaire de tout un chacun. Au contraire, il n'y a pas, insiste-t-il, un individu, si peu éduqué soit-il, dont la manière quotidienne d'envisager le monde ne soit pas influencée déjà par la science. Demet propose ainsi, parmi d'autres, l'exemple de la manière dont notre pensée est aujourd'hui pénétrée par la connaissance de la structure moléculaire de la matière qui modèle notre manière de concevoir, dans la vie la plus ordinaire, les mélanges de liquides. Aujourd'hui, nous ne croyons plus, comme Thomas d'Aquin, que si l'on ajoutait un peu d'eau dans du vin, eh bien cette eau deviendrait du vin. Ceci parce que nous ne concevons plus les liquides comme remplissant de manière homogène l'intégralité de l'espace qu'ils occupent. Au contraire, nous les concevons à partir du modèle des mélanges de solides granulaires, comme le sucre ou le sel, et nous ne pouvons plus revenir en arrière. En réalité, l'idée qu'il existerait quelque chose comme la vision du sens commun, réputée vierge de toute expression ou de toute notion empruntée à la science, est une vue de l'esprit. Elle est, dit Michael Demet, autant un mythe que celui du bon sauvage, au sens où nos représentations sont toujours déjà conditionnées par les représentations véhiculées par le langage et la société dont nous sommes membres. Là encore, je ne suis pas sûre que cet argument porte réellement contre Sellars, dans la mesure où l'image manifeste qu'il décrit est celle d'un sens commun raffiné, qui s'est effectivement laissé pénétrer au cours de son histoire des données de la science. Je ne pense pas, par exemple, que dans l'image manifeste de Sellars, on croit que le Soleil tourne autour de la Terre, plutôt que l'inverse. Simplement, le point où résiste l'image manifeste par rapport à l'image scientifique, c'est pour ce qui touche directement aux propriétés des personnes, perception, pensée et action. Donc, les critiques que je viens de mentionner, et on pourrait en trouver bien d'autres, chez Hilary Putnam notamment, ces critiques que je viens de mentionner contestent que les reconstructions que propose Sellars de l'expérience soient adéquates au regard de ce qu'elle cherche à décrire et à expliquer. Elle ne s'adresse cependant pas directement à la méthode ou à la nature systématique par laquelle, par laquelle Sellars procède et élabore ses reconstructions. Celle-ci est cependant également remise en question par une autre famille d'arguments que je vais examiner. Le premier type d'argument présenté par Van Frassen, et quoique avec des conclusions différentes par le philosophe belge Jaap van Brakel, est classique en son principe. l'idée que le philosophe aurait pour tâche de réaliser la fusion stéréoscopique des deux images pose immédiatement la question de savoir où ce philosophe pourrait bien se trouver pour le faire. D'après Van Frassen, Sellars, pour arriver à décrire les deux images en question, n'est ni dans l'image manifeste, ni dans l'image scientifique, il est nulle part. Et cette objection semble dirimante et bloquer toute possibilité de tenir un métadiscours, effectivement, sur l'ensemble de nos représentations. À vrai dire, je ne crois pas que Sellars prétende vraiment occuper un tel point de vue de nulle part, le point de vue de Dieu. La perspective qu'il adopte, je pense, est simplement celle d'un homme dans le monde, qui sent, qui pense, qui agit, et qui constitue le point nodal où des représentations d'ordre hétérogène entrent en conflit. Il dispose d'une part de la philosophie pérenne et de l'autre du corps des sciences constituées pour tenter de saisir ce que pourraient être respectivement les images manifestes et scientifiques et leur histoire. Ce qui pose réellement problème, ce n'est pas tant la description de ces deux images que l'assertion ontologique selon laquelle ce serait la science qui constituerait la mesure de toute chose. Et à cet égard, il y a bien un usage transcendant, au sens de Kant, des catégories de l'image manifeste, de l'image scientifique, pardon. Alors même que, comme le propose Van Brakel, on pourrait, peut-être même devrait-on, considérer que l'image manifeste est non seulement historiquement et conceptuellement première, mais aussi ontologiquement première par rapport à l'image scientifique. Notons simplement que l'avantage qu'il y a à élaborer une vision stéréoscopique du monde, comme s'efforce de le faire Sellars, est qu'elle nous conduit à reconnaître que l'image manifeste pèse toujours comme une contrainte sur le développement de l'image scientifique. L'image manifeste constitue en quelque sorte la pierre de touche à l'aune de laquelle on pourra considérer une représentation scientifique comme adéquate, juste ou au contraire incorrecte. Deuxième famille d'arguments portant sur le caractère systématique de la pensée de Sellars, toujours extrait de Van Frassen, je crois qu'au fond, au fondement des critiques de Van Frassen, gît la conviction que le système n'est tout simplement pas le bon outil pour traiter de l'apparente incohérence entre nos représentations du monde. Plus précisément, c'est la prétention à l'exhaustivité et à la totalité de la systématisation philosophique qui la condamne par avance à l'échec. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'image manifeste et scientifique telle que les décrit Sellars, c'est-à-dire prétendant chacune être complète. La science, pas plus que le sens commun, ne vise à expliquer la totalité des choses. Les descriptions et les explications que nous recherchons, en réalité, sont toujours de nature régionale, voire locale, et non pas absolue ou globale. Une fois encore, le philosophe est coupable de distordre des aspirations tout à fait respectables, notamment de la science, qui est, selon les termes de l'historienne de la philosophie Nancy Cartwright, de parvenir à un certain point de clôture prédictive concernant un phénomène, ce que, par exemple, Newton a atteint en introduisant le concept de quantité dynamique pour réaliser une cinématique complète. Mais il y a bien dans les sciences donc l'aspiration de parvenir à des théories plus complètes, mais toujours relativement à un domaine particulier. Et le projet de parvenir, en revanche, à une théorie ou à une description complète du monde, c'est un projet de philosophe, avec la part de vanité que cela, semble-t-il, implique. Autrement dit, nous ne sommes nullement dans la situation de détresse que décrivait Sellars et qui rendait tout à fait urgente la tâche de systématiser l'ensemble de notre expérience. Paraphrasant Sellars avec beaucoup d'ironie, Van Frassen écrit, c'est la 10e citation, « Dans quelle situation sommes-nous ? N'avons-nous pas grand besoin que la métaphysique se mette au travail ? Dans des moments comme cela, quand le langage d'usage est chargé de théories douteuses, de vieilles hypothèses discréditées et de croyances déjà abandonnées, nous n'avons plus d'opinion cohérente du tout. Le sens commun est devenu un galimatia, chargé de théories qui ne conviennent plus qu'à des conceptions scientifiques depuis longtemps écartées, clopinant sur des béquilles montées à la hâte. Les métaphysiciens, doivent commencer à travailler et à nous montrer comment nettoyer, ordonner et élaborer un nouveau système de croyances en même temps qu'un langage chargé au mieux des plus stables de ces croyances. Nous avons besoin d'une ontologie cohérente, adaptée pour la science et accueillante pour le sens commun, une vision du monde dans laquelle nous puissions reposer en paix. Êtes-vous d'accord ? Je ne le suis pas. » Alors bien entendu, il est nécessaire de corriger et de raffiner nos concepts localement, notamment ceux qui sont impliqués dans nos croyances portées sur les objets que nous manipulons tous les jours, dans la mesure impliquée ou appropriée à nos objectifs immédiats. Mais ces corrections locales nous suffisent. Rien ne nous incite, en vérité, à entreprendre une forme de toilettage global de nos représentations et de notre langage concernant le monde et notre place dans ce monde. Autrement dit, nous n'avons nullement besoin d'une vision synoptique du monde et de l'homme dans le monde. Certes, nous construisons sur des sables mouvants, sans vision cohérente de l'ensemble de l'édifice, mais il semble qu'à Van Frassen, que nous nous en tirions pour, finalement pas si mal que ça, et même très bien. Et si tant est qu'une chose comme une vision synoptique fût accessible à l'homme, ce dont les faits permettent de douter. Donc l'argument épistémologique sous-jacent essentiel me semble ici être l'idée que la vérité, alors ce que Van Frassen appelle une pensée claire, parce que le terme de vérité est sans doute trop métaphysiquement chargé pour un antiréaliste scientifique, l'argument donc épistémologique essentiel ici est que la vérité souffre finalement parfaitement de n'être que partielle ou locale. Elle n'en est pas pour autant partiale et tronquée. Ceci signifie qu'une connaissance locale appropriée ne suppose pas, à titre de condition de possibilité, la connaissance actuelle ou même potentielle de l'ensemble d'un schéma conceptuel global, un système métaphysique ou une conception du monde. Je cite Bas van Frassen, « Une tâche qui vaut davantage la peine d'être entreprise par la philosophie que d'entretenir de tels systèmes est de s'efforcer de comprendre comment cela se fait, c'est-à-dire comment se fait-il que nous n'ayons pas besoin de cette vision synoptique du monde. Il s'agit de la tâche de faire échec à un spectre qui affirme l'inanité complète de toute pensée. » Fin de citation. La philosophie systématique est donc victime des illusions de la raison déjà dénoncées par Kant. L'idée d'image manifeste ou scientifique du monde n'est pas plus à notre portée que celle de Dieu ou du monde comme totalité. Il faut donc poser des bornes aux prétentions synthétiques de la raison, sans quoi elle se détruit elle-même. Plutôt alors que de se préoccuper de construire des systèmes, la philosophie devrait s'efforcer d'expliquer simplement comment il se fait que nous n'en ayons nullement besoin. Et à cet égard, je crois que Van Frassen indique un point très éclairant concernant la controverse qui nous occupe à propos de la légitimité des systèmes philosophiques. Ce qui motive la systématisation, comme Szélár s'en donne la preuve, je crois, est l'idée que la connaissance ne saurait être parfaite si elle n'est pas complète. Ceci parce que le monde lui-même est considéré comme un ensemble d'objets en relation que l'on ne pourrait isoler les uns des autres sans en affecter la nature. Il me paraît tout à fait clair que l'option choisie concernant la nature de la vérité conditionne étroitement le style, systématique ou non, que doit alors adopter la réflexion philosophique et le poids respectif que doivent occuper dans cette activité, respectivement, la synthèse et l'analyse. Comme on s'en souvient sans doute, l'idée que la vérité ne pouvait être que totale, et avec elle la doctrine des relations internes, était défendue par les idéalistes néo-hégéliens d'Oxford, tels Bradley, et c'est contre elle que s'était élevé Russell en vue d'asseoir la légitimité de l'atomisme logique et par conséquent celle de l'analyse comme méthode philosophique. Ce faisant, Russell a sans doute libéré la philosophie d'une exigence trop lourde, la condamnant à ne pouvoir rien expliquer, faute de pouvoir tout expliquer. Et la spécialisation a sans doute droit de citer, en philosophie comme ailleurs. Mais peut-être serait-il dommage d'encourager les philosophes à la myopie relative que Szélár reprochait aux scientifiques, mais dont Van Frassen, pour sa part, semble très bien se satisfaire. Même au sein de la communauté scientifique, sans préjuger en rien de la question complexe de l'unité des sciences, le fait qu'un résultat obtenu dans un domaine soit corroboré par les données obtenues dans un autre domaine, et a fortiori dans plusieurs autres domaines, me semble constituer une bonne raison de le considérer comme correct. Un point pour conclure, il me semble que le système en philosophie, tel que le conçoit Wilfried Szélár, ne se justifie en définitive sur rien d'autre que cette idée de bon sens selon laquelle la vérité doit avoir quelque chose à voir avec, et pas seulement, mais avec aussi la cohérence. Je vous renvoie à la dixième et dernière citation. La méthode, sous-entendu la méthode à mettre en application en philosophie, la méthode est facile à caractériser, mais extrêmement difficile à suivre. On commence par construire des modèles simples, que nous comprenons parce que nous les avons construits, des fragments de ce cadre multidimensionnel dans lequel nous souffrons, pensons, agissons, etc. Ces modèles initiaux sont inévitablement simplificateurs et faux pour une large part. Mais le danger réel des modèles simplificateurs n'est pas qu'ils soient simplificateurs, mais que nous pourrions bien nous en satisfaire et manquer de les confronter à d'autres régions de l'expérience que celles qui les ont suggérées. Car en effet, la justification ultime pour la construction d'un système en philosophie est le fait qu'aucun système, qu'aucun modèle, pardon, pour aucune région du discours, perceptuel, discursif, pratique, ne peut être ultimement satisfaisant à moins que sa connexion avec les autres soit elle-même représentée. Pour pousser la métaphore jusqu'à ses limites, l'achèvement de l'entreprise philosophique serait un modèle unique, d'où nous comprendrions encore une fois le fonctionnement parce que nous l'aurions construit, qui reproduirait l'entière complexité du cadre dans lequel nous fûmes un jour chez nous de manière irréfléchie. Donc tout se passe donc comme si le système était à lui-même son propre remède. Abstrait, rigide, pour une part a priori, il échoue immanquablement à saisir dans son détail un réel vague et indéterminé. Mais je ne crois pas qu'il soit pour autant inévitable de se soumettre aux leçons radicales qu'en tirèrent Nietzsche et Bergson sur l'incapacité de penser véritablement le réel à l'aide des concepts, et ceci au profit des métaphores. Ce que les philosophes antisystématiques visaient, et Van Frassen certainement avec eux à l'heure actuelle, c'est l'idée qu'il y aurait et qu'il y aurait eu de tout temps une structure a priori du monde et corrélativement un ordre des assertions philosophiques qu'il appartiendrait aux philosophes de dévoiler, soit more géométrico comme à la Spinoza, soit more dialectico à la Hegel. Et ce n'est pas en ce sens que Szélars est un philosophe systématique. S'il est systématique, c'est au sens où il approche les problèmes philosophiques, non pas comme des cas indépendants, individuels et susceptibles d'être traités petit à petit, mais comme toujours constitué au sein d'un contexte plus large et requérant une résolution non par l'établissement d'une thèse particulière, mais par le développement d'un modèle plus perspicace ou plus adéquat qui nous permette de voir comment les phénomènes ou les problèmes particuliers se tiennent au sein d'un tout plus vaste et plus cohérent. Donc il n'y a pas chez Szélars d'ordre axiomatique des propositions philosophiques. Le système szélarsien, si on devait le décrire adéquatement, aurait, je crois, l'allure d'un système de monades leibnizienne, chacune exprimant les autres, ainsi que l'ensemble auquel elles appartiennent. C'est ainsi que chacun des articles de Szélars, parce qu'il n'y a pas, et ce n'est sans doute pas un hasard, d'opus magnum de Szélars, il y a une multiplicité d'articles, c'est ainsi que chacun des articles de Szélars se propose toujours de présenter un aperçu particulier sur une perspective, beaucoup plus large et dont on comprend, au fil de la lecture du corpus szélarsien, qu'elle est en vérité parfaitement développée. Donc il me semble que ce faisant, cet auteur est parvenu à tirer le meilleur parti de la manière systématique de philosopher, tout en évitant l'écueil principal, qui est celui, pour le dire de manière un peu brutale, du dogmatisme et de la fixité. Or, rien ne semble empêcher qu'un système philosophique puisse être envisagé sous un angle dynamique, comme une entreprise autocorrectrice et en processus de continuel raffinement, ce qui est, comme nous l'avons vu selon Szélars, la dynamique propre des idées philosophiques. Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie pour cet exposé extrêmement riche qui révèle une maîtrise tout à fait remarquable du sujet, dans tous ses aspects, importants en tout cas, et qui soulève sans doute une multitude de questions. Alors je me contenterai de deux ou trois remarques. D'abord, j'ai un petit problème avec une expression qui semble être utilisée par Szélars à propos de la philosophie, qui consiste à dire qu'en gros, la philosophie n'a pas pour but d'augmenter la connaissance que nous avons, mais d'améliorer la dite connaissance. Il y a des gens qui diraient que Damet, par exemple, dit ça à certains moments, qu'il soutient également que la philosophie n'a pas pour fonction d'augmenter la connaissance que nous avons, mais de nous aider en quelque sorte à mieux comprendre ce que nous connaissons. Il s'agit de réaliser un gain dans le domaine de la compréhension et pas, encore une fois, d'accroître la connaissance. Alors c'est la signification exacte que Szélars donne au mot améliorer, qui m'intrigue un peu. Alors il y a un autre problème qui revient constamment, c'est la question qu'attend-on exactement de la philosophie. Et À chaque fois que la question est posée, tout le monde est plus ou moins sensible à l'idée qu'il incombe à la philosophie de nous fournir quelque chose comme une vision synoptique ou synthétique des mêmes bras disjecta d'autre chose, hein, c'est-à-dire de notre représentation du monde qui est faite de pièces et de morceaux. Et au fond, il y a très peu de philosophes qui sont prêts à affirmer clairement que ce n'est pas ça le problème dont la philosophie devrait s'occuper, hein, qu'elle ne devrait pas céder à la pression, peut-être Van Frassen, je ne sais pas, de répondre à ce besoin d'une vision synoptique. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a au moins deux façons complètement différentes, hein, de répondre à cette demande. Il y en a une qui consiste à considérer que la philosophie fait pour le tout à peu près ce que les sciences spéciales font pour les parties, c'est-à-dire qu'elle est, elle a pour fonction de fournir une théorie du tout, hein, et une théorie de tout. Il y a un philosophe contemporain qui a écrit un ouvrage monumental en 9 volumes sur la totalité. J'ai oublié momentanément son nom, enfin peu importe, mais c'est une conception très classique, hein, et très traditionnelle qui voudrait qu'au fond la philosophie s'occupe justement de ce dont plus personne ne s'occupe, et surtout pas les scientifiques, hein, c'est-à-dire de la totalité. Et on peut évidemment penser que la philosophie doit le faire en fournissant une construction théorique, hein, capable de rendre compte de la totalité. Puis il y a une autre façon qui est complètement différente, qui consiste à dire qu'on peut demander à la philosophie de fournir quelque chose comme ce que Wittgenstein appelle « eine übersichtliche Darstellung », donc une représentation synoptique, qui n'a rien à voir avec une construction théorique, hein, parce qu'en gros, ça consiste simplement à chercher une manière d'agencer entre les morceaux, hein, qui est éclairante et satisfaisante. Et il me semble que c'est un peu... On retrouve là un peu une opposition du genre de celle que les gens comme Sellars se font entre une image postulationnelle et une image corrélationnelle. Si vous voulez, le premier type de réponse exige de la philosophie quelque chose comme la construction d'une image postulationnelle du tout, en tout cas une image qui serait de la nature d'une construction théorique. Tandis que le deuxième type de réponse renonce complètement à ce genre de choses. Elle considère même cette idée comme une erreur philosophique monumentale et estime que nous pouvons tout à fait nous satisfaire donc d'une manière correcte d'agencer ensemble les différents éléments. Alors il y a un bon nombre d'autres questions que j'aurais aimé vous poser, notamment à propos des positions défendues par Van Frassen. À un certain moment, je ne suis pas sûr d'avoir toujours bien compris si c'était Van Frassen qui parlait ou Sellars, alors que justement ils sont très opposés. Mais il y a une chose qui m'a vraiment étonné, c'est peut-être que je n'ai pas bien compris, c'est la façon qu'a Van Frassen de prétendre que quand les philosophes de l'époque classique donc s'opposent sur la question des qualités premières et des qualités secondes, ça n'a pas de rapport avec une question ontologique, si j'ai bien compris, ayant trait au statut des 10 qualités. Hein. Là, quand même, je proteste. Je dis, historiquement parlant, c'est bien évident que la question, c'est qu'est-ce qui fait partie de la réalité et qu'est-ce qui est dans notre esprit. Il y a bien, ou en tout cas, il est tout de même difficile de dire que cette question-là est dépourvue de pertinence réelle. Hein. Je crois qu'elle est au contraire très importante pour ceux qui en traitent. Enfin bon, ça c'est peut-être, encore une fois, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas très très bien compris. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'en tenir à ces choses-là pour le moment, parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui veulent vous poser eux-mêmes des questions.
Alors, sur le premier point, de savoir en quel sens, selon Sellars, la philosophie améliore la connaissance, je pense qu'il est finalement assez proche de son maître Wittgenstein, bien que bon, il lui fasse subir quelques affronts. Ce qui est intéressant chez Sellars, c'est qu'il constitue en fait une espèce de lui-même une synthèse dans sa philosophie entre des inspirations wittgensteiniennes, du second Wittgenstein notamment. Il développe des thèses, notamment en philosophie du langage, qui sont très proches de celles des recherches philosophiques, et d'autre part, une filiation reconnue aussi à l'égard de Carnap. Là, je pense que pour ce qui concerne la manière dont la philosophie améliore la connaissance, il est assez proche de Wittgenstein. Il dit explicitement, effectivement, que la philosophie n'a pas de contenu positif qui viendrait se surajouter au contenu positif que nous fournissent à la fois la science et aussi l'expérience que nous faisons du monde. Après, il est assez difficile de voir comment d'un réarrangement ou d'un réaménagement des connaissances surgit de surcroît une meilleure compréhension. Mais je pense que c'est clairement cette idée que Szélars a en tête, avec cette idée que subitement, en fonction de la manière dont nous réagençons nos connaissances, nous nous sentons chez nous. Donc ce n'est pas théoriquement très convaincant, c'est vraiment quelque chose de quasiment existentiel. C'est nous nous sentons chez nous, nous nous y retrouvons, une manière de soumettre un réel désordonné et plus ou moins chaotique à l'ordre de la raison. Mais avec les implications délicates que cela peut avoir, parce que ça paraît être une position clairement idéaliste, en vérité. Et c'est pour ça que j'explique qu'il y a bien chez Szélars un usage transcendant des catégories, c'est-à-dire qu'il se présente lui-même comme un conscient, à ceci près que pour lui, les choses en soi sont connaissables. Mais pour répondre plus directement à votre question, c'est l'idée d'essayer de créer finalement entre notre structure mentale et le monde une forme d'homogénéité de structure, un peu au sens platonicien dans lequel on considère que les vérités et l'âme entretiennent une forme de parenté. Et c'est cette parenté ou cette congruence en un certain sens que Szélars s'efforce de restituer au moyen du système philosophique.
Cette idée de se retrouver chez soi, c'est une formule wittgensteinienne, évidemment, il s'agit de se sentir mieux dans son univers linguistique et conceptuel.
Oui.
Et les wittgensteiniennes. Et là, ça a quelque chose à voir, évidemment, avec ce qu'on peut appeler une amélioration de la connaissance, ou une meilleure compréhension de la connaissance qu'on a. Je vous prie de m'excuser.
Oui, je vous en prie. Vous avez raison. Alors, sur le second point, sur la question de savoir. Ce qu'on attend de la philosophie. Là, en revanche, me semble-t-il, Szélars fait des infidélités à Wittgenstein. Alors, non pas qu'il se propose, comme Christian Gaudin, de réaliser une grande théorie du tout en 9 volumes, quoique il y a chez Szélars de quoi remplir facilement 9 volumes. La représentation synoptique que Szélars a en tête n'a pas grand-chose à voir avec la représentation synoptique telle que la définit Wittgenstein. Il s'agit bien pour Szélars d'une reconstruction théorique, mais encore une fois, il ne faut pas donner à cette idée d'une vision synoptique ou stéréoscopique plus de réalité qu'elle n'en a véritablement pour Szélars. C'est vraiment pour lui une forme d'idéal régulateur. Et il le dit explicitement dans La philosophie et l'image scientifique de l'homme, c'est une fiction utile. C'est une fiction, il a une vision assez instrumentaliste, en fait, de ce qu'il fait en tant que philosophe pour parvenir à son but de mieux s'y reconnaître dans le monde. Et enfin, pour ce qui concerne Van Frassen, je pense que vous avez tout à fait bien compris le propos que j'ai présenté, et que s'il vous paraît surprenant, c'est... Bon, je pense que Van Frassen, en vérité, ne défend pas des positions... J'ai du mal à le prendre au sérieux, en fait, parce que je n'ai pas cité cette partie de l'article, mais une des raisons qu'il avance pour expliquer l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de choc entre les images manifestes et scientifiques du monde, est que, sur un mode très, très, très nietzschéen, fondamentalement, la dynamique des idées, à la fois pour le sens commun et pour la science, est la même, c'est la dynamique de la superstition. Et la seule distinction qu'il l'accorde, c'est de dire que la science, c'est du sens commun bridé, tout simplement. Mais ce qui motive les élaborations, postulations d'entité, etc., c'est fondamentalement la même chose, à savoir le mécanisme de la superstition. Donc, de ce point de vue, Van Frassen a une vision de la science qui est complètement anti-réaliste et qui est très pragmatique, pragmatiste, très relativiste également.
Vous pensez que c'est l'anti-réalisme qui explique que sa position est de surprenant ? C'est tout possible parce qu'au fond, moi, ma protestation consiste simplement à remarquer que tous les gens qui, au XVIIe siècle et après, On dit le sens commun s'imagine que les couleurs sont dans les choses, en réalité elles sont dans l'esprit. Ils ont bel et bien prétendu que le sens commun commettait une erreur. Hein, si Van Frassen, je ne dis pas qu'ils ont eu raison d'affirmer ça, mais c'est néanmoins bel et bien ce qu'ils ont dit, que le sens commun était victime d'une illusion et qu'une meilleure connaissance des choses, acquise grâce à la science, permettait de corriger. Hein, mais évidemment, s'il défend ce qui doit être le cas, ce qu'il appelle son empirisme constructif, c'est bien comme ça qu'il l'appelle, est une forme d'antiréalisme radical, il ne peut pas y avoir de privilège accordé à la science quand la question posée est celle de savoir ce qui existe réellement. C'est pas plus ce dont la science, ce que la science présente comme étant réel ou comme étant la vraie réalité, n'est pas plus réel que ce que le sens commun désigne de ce nom.
Oui, tout à fait. Et il y a une autre chose aussi qui est que ce que Van Frassen conteste, c'est le fait que Szélars a pris au sérieux les élucubrations philosophiques des scientifiques. C'est-à-dire qu'il considère la révolution galiléo-cartésienne, du point de vue strictement scientifique, avec les arguments qui, selon lui, expliquent cette révolution et les changements de catégorie qu'elle a impliqués, mais en déconsidérant totalement le discours théorique ou philosophique qui a été produit sur le statut ontologique de ces catégories, en disant, bon, ben voilà, là, à partir de ce moment-là, ces scientifiques sérieux et que l'on peut admirer se mettent à faire de la philosophie. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'est plus la peine de les écouter. Et ce qu'il reproche à Szélars, c'est précisément d'avoir constitué l'image scientifique, non pas à partir de ce qu'est réellement la science, mais à partir d'un discours philosophique sur la science. Or, le fait est qu'un certain nombre des discours philosophiques tenus sur la science sont quand même produits par les scientifiques eux-mêmes, encore aujourd'hui. Mais je crois que, fondamentalement, dans cet article que j'ai mobilisé, je ne rends peut-être pas service à Van Frassen, dans la mesure où son propos paraît ouvertement polémique. Je ne sais pas dans quelle mesure il serait prêt sérieusement à défendre jusqu'au bout les thèses qu'il présente dans cet article, de manière souvent assez provocatrice. C'est le texte d'une conférence qui visait peut-être aussi sans doute à susciter des réactions dans son public.
Mais est-ce qu'il aurait des raisons particulières de s'en prendre de façon aussi agressive à cela, c'est sur ce chapitre en plus. Je vous pose la question parce que moi je ne connais pas ce texte de Van Frassen.
Parce que de manière générale, quand on suscite la question du conflit entre l'image scientifique et l'image du sens commun, ce qui fait référence, ce qui fait autorité, c'est Szélars. Mais encore une fois, comme j'ai essayé de le mettre en évidence, il ne respecte pas. Enfin, je vous avoue que parfois je me demande s'il l'a lu, ou du moins s'il l'a bien lu, parce qu'il caricature tellement la position de Szélars que ce n'est pas très sérieux. Du point de vue de l'interprétation qu'il propose de Szélars, en tout cas, c'est un article sur Szélars qui le critique, mais ça, il ne fait pas preuve d'un esprit de charité tout à fait manifeste. Donc je ne sais pas quel était le compte qu'il avait à régler avec Szélars. En fait, cette discussion prend sens dans une discussion entre philosophes, entre Bas Van Frassen et un autre philosophe que j'ai simplement mentionné en passant, qui est Jaap van Brakel, cette fois, qui, lui, s'est intéressé précisément à cette question de l'image manifeste et de l'image scientifique, et lui qui a, en revanche, lu Szélars de près. Et alors que Szélars a tendance à proposer une forme de réduction de l'image manifeste à l'image scientifique, tout en, avec plus ou moins de succès, tentant de maintenir les deux pôles pour la vision stéréoscopique, Van Brakel prend le contre-pied de cette idée en expliquant qu'en vérité, la base de réduction devrait être bien plus l'image scientifique, l'image manifeste, pardon, que l'image scientifique. C'est-à-dire que, loin que l'image manifeste doive être expliquée par les données de l'image scientifique, au contraire, on ne peut comprendre l'image scientifique que par les catégories de l'image manifeste. Et Van Brakel a écrit un article sur ce thème qui s'appelle « La primauté de l'image manifeste » et il note dans sa publication qu'il a eu beaucoup de débats avec Bas Van Frassen à ce sujet. Et peut-être que c'est ça qui a induit Van Frassen aussi à travailler sur cette question et que par conséquent, il a repris les catégories de Szélars en les connaissant peut-être de seconde main.
En tout cas, une des choses qui montre qu'il y a bel et bien un conflit possible, c'est précisément tout ce qui a trait à la confrontation entre l'image scientifique et l'image manifeste de l'être humain. C'est pour ça qu'on est plus que jamais au cœur de cette confrontation-là. Il n'y a qu'à voir les débats philosophiques sur les neurosciences, etc. Bon, on peut pas dire que comme on dit aujourd'hui, c'est un faux débat. J'ai horreur de cette expression, ça ne veut rien dire. Un débat, il a lieu ou il n'a pas lieu. Mais un faux débat, je ne sais pas ce que c'est. Bon, à la rigueur, un faux problème, mais un faux débat, bon. Passons. Mais là, on a l'impression quand même que c'est pas très sérieux de dire que l'idée d'un conflit entre ces deux images, dans le cas de l'être humain, entre l'image scientifique et l'image manifeste, est une simple apparence. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble un conflit bien réel, hein, un conflit philosophique bien réel et important. Donc il est quand même difficile d'affirmer qu'il y a, pas de contradiction, ni même réellement de tension entre les deux images. Je crois qu'il y en a bel et bien une. Il y en a une dans le cas de la représentation de la réalité, mais également, et encore plus, dans le cas de la conception de l'être humain.
Oui, j'ai tendance... Si je travaille sur Wilfried Sellars, c'est que je pense qu'il a raison, au moins sur ce point, et éventuellement aussi sur d'autres. Et il explique... Quand je citais le texte, je ne sais plus de quelle citation il s'agissait, dans laquelle il explique que... voilà, c'est la citation numéro 8... admettre que c'est la science plutôt que l'image manifeste qui nous indique ce qui réellement existe, ça n'implique pas, alors ça implique un rejet théorique au sens où si on se pose, si on s'intéresse vraiment à la question ontologique de ce qui existe, l'image scientifique supplante l'image manifeste, mais ça n'implique pas un rejet pratique, alors ça n'est pas une manière simplement de dégager le problème en disant « bon, voilà, ça vaut en théorie, mais pas en pratique », il y a bien une pertinence du cadre conceptuel de l'image manifeste et qui est une pertinence essentiellement pratique dans la mesure où Sellars explique que toute la manière dont, par exemple, nous structurons l'éthique, et Sellars a travaillé aussi dans le domaine de l'éthique, toutes nos productions en matière d'éthique ou de droit, ou de théorie de l'action de manière générale, mais nos productions en termes de normatives, déontologiques, sont conditionnées par la représentation que nous avons de nous-mêmes comme être doué d'une forme de libre arbitre et comme être conceptuellement pensant. Alors ça a déclenché aussi des foudres. On a reproché notamment à Sellars la manière qu'il a de considérer qu'il y a une rupture, une solution de continuité entre les animaux et les êtres humains et de soutenir la thèse selon laquelle les animaux ne penseraient pas. Et effectivement, bon, la question de savoir si Sellars et dans quelle mesure soutient une telle position pourrait faire l'objet d'un autre séminaire. Mais pour Sellars, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la manière dont nous agissons et dont nous nous jugeons est étroitement dépendante de l'image manifeste.
Oui, c'est une vraie question de savoir jusqu'à quel point l'image scientifique elle-même est devenue plus susceptible d'influencer la façon dont nous agissons. Hein, c'est-à-dire, dans quelle mesure a-t-elle réellement transformé l'image manifeste ? C'est, comme vous le savez, une question très débattue. Est-ce que notre intuition de l'espace est restée euclidienne ? Ou est-ce que, comme certains l'avaient prophétisé, Reichenbach, par exemple, avait prédit que notre intuition spatiale finirait par deviendrait non euclidienne, hein, que certes, elle ne l'était pas encore, etc. Mais où est-ce que la théorie de la relativité a influencé notre image manifeste, hein, notre représentation naïve, entre guillemets, de l'espace et du temps, dans quelle mesure ? C'est pas dans une mesure très importante, me semble-t-il. Donc il y a, semble-t-il, à la fois dans le cas de l'image manifeste, une certaine capacité à évoluer, ça me paraît tout à fait certain, et en même temps une résistance considérable à l'influence de l'image scientifique et des révolutions scientifiques.
Oui, il y a un élément chez Sellars quasiment presque existentialiste, dans la mesure où il considère que nous sommes... où nous nous faisons être en fonction de ce que nous considérons que nous sommes. Donc si l'image scientifique en venait à supplanter complètement l'image manifeste, aussi bien du point de vue simplement des objets, mais aussi et surtout de la manière dont nous nous considérons comme être pensant et libre, nous deviendrions...